إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au 22e chapitre, le 23e dans certaines éditions, du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Le titre de ce chapitre est « Du fait que certains membres de cette communauté adoreront les idoles ». En effet, après avoir clarifié l'obligation de connaître le tawhid, d'en posséder la science et de craindre le polythéisme, après avoir clarifié certaines catégories du tawhid, du polythéisme majeur, mineur et des moyens y menant, le cheikh rahimahullah a anticipé l'objection qu'une personne pourrait soulever en disant « Tout cela est vrai, mais cette communauté est protégé par Allah du fait de sombrer dans le polythéisme majeur. » En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Satan a d'ores et déjà désespéré que les musulmans fidèles à leur prière l'adorent dans la péninsule arabique. Cependant, il peut encore semer la discorde dans les rangs des musulmans. » La réponse à cette allégation est de plusieurs points de vue. Premièrement, il y a des preuves irréfutables que le polythéisme majeur est apparu dans cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces preuves sont de plusieurs types. Des preuves citées dans les textes, dont on va citer certaines d'entre elles ici. D'autres preuves que l'on a tous vécues à travers les siècles que l'histoire nous a rapportées et que l'on vit jusqu'à aujourd'hui, où l'on voit des gens s'affiliant à cette communauté de l'islam pratiquer le polythéisme majeur en adorant des idoles en dehors d'Allah, des statues, des tombes, des saints, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah ou autre. Alors comment pouvons-nous comprendre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme l'ont expliqué les savants, ce hadith veut dire que toute la communauté ne retombera pas dans le polythéisme. C'est-à-dire la communauté dans son ensemble. Et c'est ce sens qui est voulu. D'ailleurs, quand on veut comprendre des textes, il ne faut pas se suffire de prendre un texte et de l'expliquer selon nos passions. Mais il faut réunir les différents textes dans le même sujet pour pouvoir comprendre son sens voulu. Donc ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette communauté ne reviendra pas à l'adoration de Satan, il parle de sa communauté dans son ensemble, mais une partie d'entre elles, et d'ailleurs une grande partie même d'entre elles, va tomber et sombrer dans le polythéisme majeur. Donc cet argument, il n'est pas à sa place. Car si Satan a bel et bien désespéré, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas empêché que cette adoration arrive. Et Satan a désespéré d'égarer toute la communauté et non pas seulement une partie. De plus, dans l'expression que Shaytan a d'ores et déjà désespéré que les musulmans fidèles à leur prière l'adorent, signifie aussi que les musulmans fidèles à leur prière enjoignent le bien et interdisent le blâmable. Or, la chose la plus blâmable qu'un musulman fidèle puisse condamner est le polythéisme. Shaytan a donc désespéré que ceux qui pratiquent la prière comme il se doit l'adorent. Nous disons donc que rien dans ce hadith ne permet d'affirmer que l'adoration de Shaytan ne se produira pas dans cette communauté. Cela s'est d'ailleurs produit juste après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car une partie des tribus arabes a alors apostasié, ce qui revient en fait à adorer Shaytan. En effet, l'adoration de Shaytan consiste à lui obéir, comme l'a dit Allah le Très-Haut, « Ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer Shaytan ?» أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. L'adoration de Shaytan a été définie dans l'exégèse de ce verset comme étant l'obéissance qu'on lui voue dans ses ordres, ses interdits, dans le polythéisme, dans le délaissement de la foi, et ses conséquences nécessaires. Les personnes de l'égarement et de l'innovation font tout pour faire croire qu'il n'est pas nécessaire d'appeler au tawhid, qu'il ne faut pas craindre le shirk pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le shirk toute sa vie, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient autour de lui, même avant sa mort, comme nous avons pu le voir dans les chapitres précédents. Et il y a certains égarés qui osent dire que ce n'est pas le shirk qu'il faut craindre le plus pour la communauté de l'islam, mais c'est l'insouciance, la rafla. Ou bien d'autres, pour pouvoir légitimer l'adoration des tombeaux, les tombolâtres qui veulent légiférer cela. Et les égarés, les exagérateurs parmi les soufis et les philosophes qui s'en remettent qu'à leur raison et leur passion, un groupe qui ont une raison corrompue, Al-Mu'tazilatul Judud, les nouveaux Mu'tazilites de cette époque. Et combien sont-ils nombreux parmi les prédicateurs francophones qui éloignent les gens de l'enseignement du Tawhid et de la mise en garde contre le shirk, qui veulent faire croire que la communauté n'a pas besoin d'être mise en garde contre le polythéisme, que toutes les œuvres que les gens qui se réclament de l'islam font n'est pas du polythéisme, comme l'adoration des tombes des morts, comme le fait d'obéir aux sorciers, d'adorer les djinns, les shaytans, de sacrifier pour eux, de les invoquer, de s'adonner à la sorcellerie, d'invoquer les morts, de se prosterner pour eux, de sacrifier pour eux, tout ceci pour être les alliés de shaytan et pousser les gens vers le shirk. Attention à ces prédicateurs aux portes de l'enfer qui sont nombreux sur les chaînes YouTube et qui ont de nombreux suiveurs et auditeurs. Quand, dans ce chapitre, le cheikh a parlé de l'adoration des Aousan. Aousan est le pluriel de Wathan, idole. C'est-à-dire, c'est un monument qui est adoré, sacré. C'est toute chose vers quoi, en dehors d'Allah, les gens s'orientent dans leur adoration, ou à quoi ils demandent secours, ou qu'ils croient avoir des effets bénéfiques ou néfastes, sans la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou qu'ils craignent de façon occulte, comme on craindrait Allah, qu'elle se présente comme une statue, c'est-à-dire sous une forme humaine, ou d'un être vivant, ou non, comme un mur, une tombe, un mort, un arbre. Donc, le wathan, une idole, ce n'est pas seulement des statues qui ont une image humaine ou animale ou d'un être vivant. Une tombe qui est adorée en dehors d'Allah, c'est un wathan, c'est une idole. Un mur adoré en dehors d'Allah, c'est une idole. Un arbre adoré en dehors d'Allah est une idole. Une corde, une quoi que ce soit que les gens adorent en dehors d'Allah, même les choses inertes sont des idoles. Puis le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, cite la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée? Ajoutez foi à la magie, al-jibt, et au ta'ghout. Ce verset, Allah ta'ala parle de ceux qui ajoutent foi, qui croient en al-jibt. Il s'agit d'un nom englobant tout ce qui s'oppose aux ordres d'Allah et aux ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam du point de vue du dogme. El-Jibd peut désigner la sorcellerie, le devin ou une chose vile et néfaste pour la personne. At-Tarut, c'est un nom dérivé du mot Touryan, qui veut dire transgression, dépassement des limites, désignant tout être par lequel le serviteur dépasse les limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. La limite permettant de déterminer si un être est suivi conformément à la religion consiste à ce que cet être ordonne ce que la religion ordonne et interdit ce qu'elle interdit. Font donc partie du Tarut ceux qui sont adorés, ceux qui sont suivis et ceux qui sont obéis en dehors des limites de la religion. La relation liant ce verset au titre du chapitre réside dans le fait que cette attitude est l'œuvre de ceux à qui une partie du livre a été donnée, à savoir les juifs et les chrétiens. Quel rapport donc avec la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que ce qui s'est produit pour les communautés qui nous ont précédés se produira pour la nôtre, comme cela sera expliqué dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Il y a d'ailleurs dans cette communauté des personnes qui croient à la sorcellerie, d'autres qui croient à l'adoration d'autres qu'Allah. Elles suivent donc la voie des générations précédentes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé. Puis le cheikh a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ » Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le Tarut, c'est-à-dire celui qu'Allah a maudit, ainsi que celui qui a adoré le Tarut. L'adoration du Tarut englobe l'adoration des idoles, comme l'adoration des tombes, la divination de leurs occupants, ou le fait de les considérer comme des intermédiaires entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala. Or, c'est ce qui s'est produit pour une partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est donc apparu l'adoration des idoles, que sont les tombes, les mausolées, les arbres, les pierres et autres. Puis le cheikh a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا » Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent « Élevons sur eux un sanctuaire ». Ceux qui l'emportèrent dans la discussion désignent ceux qui ont vaincu dans la décision, c'est-à-dire à l'époque des gens de la caverne. Ils ont vénéré ces gens pieux au point de dire « Élevons sur eux un sanctuaire ». Étant donné que cela s'est produit pour la communauté passée, cela arrivera pour la communauté actuelle. En effet, il n'y a pas une forme de polythéisme qui ne soit apparue dans les communautés précédentes sans qu'elle n'apparaisse dans cette communauté. Et ce qui apparaît, c'est que les gens de la caverne sont des gens de Bani Israël avant l'avènement de Isa alayhi salat wa salam. Puis le cheikh a cité le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez certes à la trace les voies de ceux qui vous ont précédés, au point où même s'ils s'introduisent dans le trou d'un lézard, vous ferez de même. Les compagnons demandèrent alors: ô prophète d'Allah, sont-ils les juifs et les chrétiens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: qui d'autre à part eux? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que les musulmans, ou une partie d'entre eux, suivront à la trace le chemin de ceux qui les ont précédés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré sur cela, en utilisant لَتَتَّبِعُنَّ C'est un serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appuyer cette affirmation de manière forte et d'informer que cette communauté suivra certes la voie et le chemin des communautés précédentes, ce qui est en soi une mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il met en garde de suivre les pas des communautés précédentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette conformité des communautés précédentes sera comme deux plumes d'une flèche qui se ressemblent. C'est-à-dire, on ne peut distinguer l'une de l'autre tellement elles sont similaires. Jusqu'au point où même s'ils entraient dans un trou de lézard, vous feriez de même. Donc, tout le début de ce chapitre se base sur ce hadith. Car toute mécréance et tout polythéisme apparu dans les communautés précédentes apparaîtront dans cette communauté. Puis le cheikh, rahimahullah, a cité, Muslim rapporte, d'après Thauban, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a mis la terre sous mes yeux et j'en ai vu l'Orient et l'Occident. Le royaume terrestre de ma communauté s'étendra aussi loin que ce qui m'a été dévoilé. En outre, deux trésors m'ont été octroyés, le rouge et le blanc. J'ai aussi demandé à mon Seigneur de ne pas anéantir la totalité de ma communauté par une calamité et de ne pas la laisser se faire agresser par des ennemis qui la domineraient et auraient l'avantage sur elle, autre que ses propres membres. Et mon Seigneur m'a répondu, « Ô Mohammed, lorsque je décrète une chose, elle est inévitable. » J'ai donc accordé à ta communauté de ne jamais l'anéantir dans sa totalité par une calamité et de ne permettre à aucun de ses ennemis, même s'ils se rassemblaient tous, de la dominer et d'avoir l'avantage sur elle en l'agressant, autre que ses propres membres qui s'entretueront et se réduiront les uns les autres à l'esclavage. Al-Barqani a rapporté ce hadith dans son recueil authentique en ajoutant « Mais ce que je crains le plus pour ma communauté sont les imams de l'égarement, les meneurs prônant l'égarement. Si le feu de la guerre s'allume dans la communauté, il ne s'éteindra qu'au jour de la résurrection. Et ce dernier n'arrivera qu'après qu'un des groupes de ma communauté aura rejoint les polythéistes et que d'autres adoreront les idoles. Il apparaîtra en outre 30 menteurs dans ma communauté. » Chacun d'entre eux prétendant être prophète. Or, je suis le sceau des prophètes et il n'y a pas de prophète après moi. Cependant, il ne cessera d'exister une partie de ma communauté victorieuse dans la vérité. Ceux qui les trahissent ou s'opposent à eux ne leur causeront aucun préjudice jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et Tirmidhi, et c'est un hadith authentique. Il y a beaucoup de leçons dans ce hadith, mais nous allons nous concentrer sur les leçons liées au titre de ce chapitre. Premièrement, dans la version qui est rapportée par Al-Barqani, rahimahullah, il parle du fait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint le plus pour la communauté de l'islam sont les imams de l'égarement, les meneurs prônant l'égarement. Les imams prônant l'égarement sont ceux qui ont été désignés comme guides par les gens, que ce soit du point de vue religieux ou du point de vue politique, car ce sont eux qui tiennent les rênes de l'organisation de la vie des gens. Ils les égarent donc par les innovations et les différentes formes de polythéisme qu'ils embellissent à leurs yeux jusqu'à ce qu'elle leur apparaisse comme une vérité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que si le feu de la guerre s'allume dans la communauté, il ne s'éteindra qu'au jour de la résurrection, et ce dernier n'arrivera qu'après qu'un des groupes de ma communauté aura rejoint les polythéistes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Cela n'arrivera que quand un groupe de ma communauté aura rejoint les polythéistes », ceci n'est-il pas une preuve qu'une partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam va adorer les idoles
et va rejoindre les polythéistes dans leur foi? Bien sûr que si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de deux catégories de gens. Une catégorie qui va rejoindre les polythéistes et une autre catégorie de sa communauté qui va adorer les idoles. Et ces deux catégories vont faire du polythéisme majeur. La première catégorie qui va rejoindre les polythéistes, c'est-à-dire ils vont quitter les terres d'islam pour aller vivre avec les mécréants et devenir mécréants comme eux, en quittant l'islam et en délaissant l'islam. Ça, c'est une première partie. La deuxième catégorie, ceux qui vont adorer les idoles, c'est-à-dire qu'ils vont faire du polythéisme, mais sans quitter les terres d'islam. Donc ce hadith est une preuve irréfutable qu'une partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam va adorer les idoles, va adorer Shaytan, et va commettre le polythéisme majeur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y aura des faux prophètes qui vont apparaître, et il a annoncé qu'il y a un groupe, une partie de sa communauté, qui est Ta'ifatul Mansoura, Al-Firqatul Najiyah, le groupe sauvé, le groupe victorieux, qu'Allah nous compte parmi eux. Ce groupe-là, Allah tabarak wa ta'ala va leur donner toujours la victoire. Certains vont se dire comment dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah que cette communauté ne se fasse pas anéantir par des ennemis extérieurs à elle. Et il dit, il y aura toujours une partie de sa communauté victorieuse. Pourtant, on voit que parfois, il y a des monothéistes et des croyants qui perdent certaines guerres, qui sont vaincus par les ennemis de l'islam. En réalité, quand Allah tabarak wa ta'ala a donné victoire à un groupe de cette communauté, c'est le fait qu'Allah leur a donné les preuves et la clarification avec les preuves. Il ne s'agit pas toujours de la victoire armée, car s'ils perdent certaines batailles ou que leur état est parfois renversé, ils restent tout de même triomphants et victorieux, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé les preuves, les textes, la droiture et la vérité, à l'exception de tout autre groupe. Ils sont donc dans la vérité, contrairement aux autres. Et ceci est une victoire en soi, car cette vie est une épreuve. Donc rester sur la vérité et avoir les preuves et la clairvoyance pour être sur la vérité, cela prouve que l'on est victorieux, même si l'on perd certaines batailles. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce clairement que quand le feu de la guerre va être allumé dans cette communauté, il ne s'arrêtera pas jusqu'au jour du jugement dernier. Et on voit que les ennemis de l'islam utilisent ce moyen à toute époque pour affaiblir la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en les montant les uns contre les autres et en divisant leur pays jusqu'au point où ils faiblissent. Et Shaytan et ses alliés peuvent, à ce moment-là, essayer de mettre en pratique leur plan, qui est de répandre le shirk et de diminuer la mise en pratique du tawhid, du monothéisme pur. Je finirai ce chapitre par une parole. Comment une personne qui se prétend être prédicateur en islam, appelée à l'islam, peut délaisser l'appel au tawhid? Ou même émettre des doutes sur le fait que appeler au tawhid, c'est quelque chose d'essentiel, alors que c'est le message de tous les prophètes et les messagers. C'est l'objectif pour lequel Allah Ta'ala nous a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors il est évident que tout prédicateur dont son fondement, le fondement de sa prédication, n'est pas l'appel au monothéisme pur et au tawhid, n'est pas un prédicateur sur la bonne voie, mais il est plutôt un imam de l'égarement, contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.